En gros, on commence dans Actes au chapitre 4, on va lire les versets 23 à 31. Et vous allez voir comment on va procéder pour la suite. Actes au chapitre 4, alors la persécution a commencé contre l'Église déjà à ce temps-là. C'est officiel, les apôtres sont battus et ensuite ils ont été relâchés. Justement, c'est là qu'on commence, verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les anciens avaient dit. Verset 24. Lorsqu'ils eurent entendu, donc celui qui écoutait le rapport, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton Saint-Serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples et le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Wow! Mes amis, savez-vous c'est quoi ça? La toute-puissance de Dieu dans la vie d'un chrétien, d'une église chrétienne. C'est ça qu'on voit là. Dieu qui manifeste sa toute-puissance comment? En réponse à la prière. Ces gens-là ont recherché le Dieu Tout-Puissant. Ils ont invoqué le Dieu Tout-Puissant et il s'est manifesté. Bon, si on se met à prier, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faut que la terre tremble pour dire que le Dieu Tout-Puissant a répondu, mais Dieu est capable de faire des choses extraordinaires en réponse à la prière. Et je suis convaincu que c'est le plus grand besoin que nous avons en ce moment. Que Dieu, le Tout-Puissant, se manifeste au milieu de nous. Et pour ça, nous devons invoquer son nom, prier, chercher la face de Dieu. Et donc, pour arriver à combler ce besoin, qui est notre plus important, et expérimenter comme eux la toute-puissance de Dieu dans notre vie chrétienne, dans notre vie familiale, dans notre vie d'église, on va faire comme Pierre a fait, Pierre et ceux qui priaient ici. On va se baser des Écritures ici. Ils ont basé leur prière dans le psaume 2. Il dit, ce qu'on va arriver, c'est comme tu dis, Seigneur, dans ta parole. Et donc, on te prie à la lumière de ce que tu nous dis dans ta parole. On va faire la même chose avec quoi? Ésaïe 59. OK? C'est là qu'on va y aller. Vous voyez où est-ce qu'on s'en allait avec notre lecture d'Ésaïe 59. L'idée, c'est qu'on veut baser notre recherche de Dieu. On veut baser notre prière ou notre réponse de la foi à ce qui nous arrive. Parce que Dieu nous envoie des choses et on doit répondre par la foi. Et ça, on veut le baser dans les Écritures. Et c'est ce qu'on va faire avec Ésaïe 59 dans un instant. Afin que, comme eux ici, en réponse, qu'est-ce qui est arrivé? Ils étaient remplis, contrôlés par le Saint-Esprit. Et Dieu a fait des grandes choses. Et il a vaincu la peur qu'il y avait. Et savez-vous quoi? On doit invoquer le Seigneur, être rempli, contrôlé du Saint-Esprit pour vaincre la puissance de la peur qui est tellement dominante. C'est ça notre plus grand problème en ce moment. C'est pas les masses, c'est pas le gouvernement, c'est la peur, puis tout ce qui s'ensuit par la qui va avec. C'est une émotion très forte qui nous prend tous. Et donc, on va regarder ça ensemble. Mais juste avant, sur une note plus personnelle, je voudrais juste vous confesser en partant comment j'ai été quand même, j'ai été troublé et même, bon, gloire à Dieu, la grâce de Dieu guéri, mais j'ai été blessé même par certains, pas ici là, mais en voulant partager, j'ai été déçu même avec la tournure d'événements. Lorsque j'ai voulu partager la lettre où est-ce que je faisais appel au gouvernement pour dire, bon, pourquoi le mettre obligatoire? Puis aussi, ce que j'ai voulu partager pour dénoncer la manipulation, le mensonge, les excès idéologiques, OK, dans le fond, dénoncer le péché, la corruption. Vous savez quoi? Les deux, les deux sont légitimes et ont des bases bibliques, savez-vous ça? Paul a fait appel aux autorités dans Acte 16, dans Acte 25, il dit « J'en appelle à César » lorsqu'il était à Philippe, puis qu'il voulait laisser aller en catimini. Il dit « Non, 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 venez vous-même, parce que... OK? » Puis aussi, Jean-Baptiste a dénoncé la corruption lorsqu'il a dit à Hérode « Ce que tu fais là, c'est pas bien. » OK? Puis les prophètes ont fait ça aussi beaucoup. Donc, c'est légitime et biblique, mais... L'idée, c'est pas ça, c'est que je m'attendais pas à cette réaction-là. Surtout pas de la part des chrétiens, mais bon, c'est pas grave. Savez-vous quoi? Dieu avait ça pour moi, et j'ai répondu à Dieu avec ça. Parce que Dieu nous envoie des choses, puis on comprend pas toujours, mais l'idée, il faut répondre à Dieu. Mais je veux prendre le temps de vous l'expliquer pour que vous compreniez un peu la situation. Et avec tout ça, ça m'a amené à chercher Dieu. Et je me suis rendu compte, avec tout ça, je suis arrivé au douloureux constat. Mes amis, je pense qu'il va falloir qu'on arrive à ça. Je pense qu'on a perdu notre démocratie telle qu'on l'a connue. OK? Si, en tout cas, peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je pense que les libertés, liberté de parole, liberté de se rassembler, liberté d'adoration, je pense qu'on a perdu ça de la façon comme on l'a connu dans le temps. Ça m'a beaucoup irrité. Ça m'a choqué. Ça a été comme un choc pour moi de dire « Wow, qu'est-ce qui arrive avec ça? » Puis je me suis rendu compte que subtilement, en arrière de ça, il y avait le même esprit de peur. Parce que ça me faisait peur, je peux dire, OK? Puis ça m'a choqué aussi de voir l'aveuglement, l'apathie, la conformité généralisée en disant, il n'y a rien qui arrive. Maintenant, je comprends qu'il y a tout le temps deux côtés d'une médaille. Et quelqu'un me partageait l'autre côté de la médaille avec, on partageait une vidéo de quelqu'un qui expliquait ben, pourquoi les chrétiens devraient... se soumettre au gouvernement, même si on n'est pas d'accord, même si on trouve que ça n'a pas de sens. Puis il donnait l'analogie avec un papa qui demande à son enfant, « Peux-tu faire le ménage, ramasser telle chose? » Puis l'enfant peut dire, « Ben ouais, mais ça n'a pas de bon sens, puis c'est pas raisonnable, puis t'as pas raison, puis tout ça. » Vous savez quoi? Ça ne change pas le fait que parce que c'est son père, il doit quand même obéir. Les enfants, OK? C'est vrai. Maintenant, son père ou sa mère, l'autorité dans sa vie. OK? Je suis 100% d'accord avec ça. Mais prenons la même situation. Et disons que le papa est là et quelqu'un arrive puis il met un fusil sur sa tente. Puis il donne des ordres au père. Puis il dit, dis à ton enfant de faire ci puis de faire ça. OK, là j'entends toujours la voix de mon père qui me dit de faire des choses, mais où, en réalité, à qui est-ce que, c'est qui est-ce que j'écoute, c'est qui donne les ordres? Ben, c'est le parallèle que je vois. On doit soumettre au gouvernement, mais c'est pourquoi je pense que nos gouvernements ont été pris d'assaut. C'est comme un coup d'État international par des gens non élus, des gens non du gouvernement, qui ont pris d'assaut les gouvernements, qui ont le fusil sur la tempe, puis qui disent, il faut que tu dises... Pourquoi qu'il y a une uniformité sur toute la planète, sur toutes les règles? Parce que ça vient des mêmes voix, OK? Je fais juste vous partager ça, pas parce que je veux soulever une controverse puis vous montrer que j'ai raison, juste pour vous montrer... que c'est dans ma conscience. Quand je vois les mesures, c'est à ça que je pense. J'ai la conscience. Conscience, ça vient du latin « con » avec « science »,« connaissance ». Et donc, moi, là, je veux juste vous le partager. Pourquoi ces choses-là, ça peut me troubler? Parce que je me rends compte, il y a quelque chose qui ne marche pas avec ça. OK? Mais je faisais juste amener ça pour amener le point suivant. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. J'ai beau savoir tout ça, au bout du compte, savez-vous ce que je me suis rendu compte? C'est pas grave. C'est l'amour, parce que Satan voudrait diviser. Avez-vous vu la division? C'est incroyable dans la société, même parmi les chrétiens. Puis Satan, dans ce temps-là, ha! Il est tellement content. Parce que c'est quoi que dans Éphésiens, on voit avec l'Église, ce que... OK, dans Éphésiens, on va en parler là, plus tard, là, pendant, à travers le message, mais les trois premiers chapitres, ça parle du grand salut qu'on a en Jésus-Christ. Puis au début, première chose, quand il commence à la mise en pratique, dans le chapitre 4, il parle de l'unité. La chose la plus importante pour une Église, c'est l'unité de l'Esprit. Pas l'unité superficielle, tout le monde fait semblant, mais l'unité qui vient du Saint-Esprit. Puis c'est précisément ça que Satan attaque, avec cet esprit de peur ou de colère. C'est spirituel. Et c'est ça le vrai problème. Et c'est de ça que je veux parler. Parce que le Seigneur m'a ramené au fait que, OK, on a perdu notre démocratie, ou en tout cas, on est vraiment en train de la perdre. Mais si c'est ça que ça prend pour nous sortir de notre mentalité laodicéenne, nous sortir de notre tiédeur, de notre apathie spirituelle, c'est ça le seul espoir. De toute façon, il n'y a pas d'espoir dans le gouvernement, il n'y a pas d'espoir dans un homme. L'espoir, on vient de le voir, puis c'était pas arrangé avec le gars des vues, notre espoir, c'est Jésus-Christ. Et c'est à lui qu'il faut revenir. Donc, c'est pour ça que le Seigneur m'a redirigé. J'avais pas prévu prêcher ce message-là. En fait, il me l'a donné sur la fin de la semaine, et je suis content de vous partager avec vous ce que le Seigneur, comme je l'avais déjà partagé, je me prêche juste que ça donne que vous êtes là pour écouter, là. Mais on va regarder maintenant, allons dans Ésaïe 59. Je partageais ça avec le pasteur Joutra, parce qu'il me disait comment lui aussi il trouvait ça dur. Il faut être transparent, mes amis, là. Je ne veux pas vous dire que je suis spirituel, puis je ne suis pas spirituel. Je lutte avec ces choses. Vous en avez été témoin, OK? Qui est suffisant pour ces choses? Mes amis, il faut qu'on use, c'est plus que jamais le temps d'user de patience. C'est le temps de porter le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience. C'est là que c'est le temps, mes amis, plus que jamais. Donc, trois parallèles qu'on va faire un peu comme quand ils priaient, ils ont basé leur prière sur le psaume 2. Nous, on va baser notre prière, notre vision spirituelle sur Ésaïe 59. Et je pense que ça va nous aider à comprendre la toute-puissance de Dieu dans la vie chrétienne. Vous l'avez déjà lu, en tout cas la majorité d'entre vous. On va pas lire Ésaïe 59 au complet. On va d'abord lire les versets 14 et 15 pour voir le premier parallèle que je veux faire. Ça dit au verset 14. Et la délivrance est retirée, le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Le premier parallèle que je veux tirer, c'est la vérité trébuche sur la place publique. Et je pense qu'on a là une loi historique. Donc souvent, on parle de loi spirituelle. Ici, je vois une loi historique. Parce que le déclin de toute nation, c'est ce que ça dit, hein? Dans les proverbes, le déclin de toute nation commence toujours et s'aggrave lorsque la vérité trébuche sur la place publique. Pourquoi? Parce que c'est pas simplement le rejet de la vérité, c'est le rejet du Dieu de la vérité qui est le problème. C'est là le problème. Et ce qu'on voit pour nous, là, c'est l'aboutissement d'année après année à vouloir avoir rejeté la parole de Dieu, les absolus de la parole de Dieu. Et les lois et tout ça, maintenant, sont plus basées sur Dieu comme ça devrait. Dieu qui a des absolus, mais sont basées sur l'homme. Et ça change. C'est ça le problème. Maintenant, comment ça se passe? Comment ça se passe que la vérité trébuche sur la place publique? Je pense que ce qu'on a décrit dans les versets 2 à 8, et vous pourrez le revisiter pour vérifier par vous-même, mais je pense que ce qu'on voit, ça se passe par la culture. C'est quoi la culture? La culture, c'est ce qui est socialement accepté, socialement normalisé. Ça, c'est la culture. Nous, dans notre culture, on marche comme ça. C'est le consensus social, la culture. Et pour être plus précis ici, dans le contexte, non seulement d'Ésaïe, mais des prophètes en général, tu sais, on pense qu'on est nouveau, il n'y a rien de nouveau sous ça. On dit on vit dans une culture de la censure. Ben, c'est exactement ce qu'il y avait à l'époque. Les prophètes vivaient dans une culture de la censure. C'est-à-dire que tous les prophètes, puis pensons à Jérémie, non seulement il se faisait dire « tais-toi », mais même Jérémie s'est fait mettre dans une fosse parce qu'il ne voulait plus l'entendre. OK? Pourquoi ils voulaient faire taire leur voix pour ne pas entendre la vérité? Parce que les prophètes proclamaient la vérité, et c'est ce qui fait que la vérité, comme ça, trébuchait sur la place publique. Autrement dit, lorsque la vérité trébuche sur la place publique, il y a toujours une révolution culturelle. C'est pour ça qu'on parle d'histoire. Savez-vous que, tu sais, des fois, moi, j'avais entendu ça la première fois. Ah, il y a eu la révolution culturelle en Chine. Mais, au lieu d'avoir des peintures de main, ils ont fait d'autres peintures. Comment j'étais nono en parlant. Non, quand on parle de révolution culturelle, c'est complètement toute la norme sociale, ce qu'on trouvait normal, qui est changé. Okay? Vous étudierez ça par vous-même, là, Mao et tout ça, là. Okay? Il y a toujours une révolution culturelle lorsque la vérité trébuche sur la place publique. Pourquoi? Parce que la norme sociale, ce que tout le monde a dit qui était normal, qui était accepté, ça change. Okay? C'était vrai dans le temps d'Israël avec les prophètes. C'était vrai du temps de Mao, c'était vrai du temps d'Hitler. Il y a eu une révolution culturelle du temps d'Hitler et ce l'est maintenant. Case in point, je vous montre, je vous le prouve, OK? Par exemple, l'une des premières choses qui change dans une révolution culturelle, c'est les mots. Ceux qui ont lu le livre 1984, si vous vous rappelez, le slogan d'Océania, OK, c'est le pays là, imaginaire que Owen a... Owen, c'est ça? Oui. George? Orwell, excusez, je vais le rebaptiser, là. OK, le slogan de ce pays-là qu'il imaginait, là, qui, avec le Big Brother qui contrôle tout, voici c'était quoi? La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Savez-vous ce qui était écrit au-dessus des camps de concentration? C'était le même genre de... Le travail, c'est la liberté. Pareil. OK? C'est quoi que ça nous dit, ça? Changer les mots puis leur sens. Parce que, OK, les mots, c'est la base de notre culture. OK? Quand on change les mots puis leur sens, on peut tout changer le reste. C'est pour ça qu'Hitler a tué 1,2 million de Juifs sous le camouflage de la nouvelle, du nouveau langage, de la révolution culturelle. OK? Parce que maintenant, exterminer Juifs, ça s'appelait purifier le pays. Laisser des enfants mourir de faim, ça s'appelait une diète basse en calories. Les amener dans des centres pour les tuer directement, les mêmes enfants, ça s'appelait des centres spécialisés pour enfants. C'est pas drôle là, ce qu'on parle, là. C'est des vraies choses. Là. Quand la vérité trébuche sur la place publique, ça donne la mort. Savez-vous que rien n'a changé? Ah, on ne dit plus un avortement, on dit une interruption volontaire de grossesse. On ne dit plus homosexuel, et tout, on dit un style de vie alternatif. Ah, on ne dit même plus un masque, on dit un couvre-visage. Mais voyez-vous le pattern? L'idée, c'est pas de dire « Ah, on part en révolution », c'est de reconnaître que la vérité trébuche sur la place publique. Il faut apprendre l'histoire. Ceux qui n'apprennent pas de l'histoire sont condamnés à la répéter. On parle de nouvelles normales. Je vous dis, tout ça, c'est non seulement le langage d'une révolution culturelle, mais savez-vous quoi? C'est, bibliquement parlant, c'est la conformité au siècle présent. On a l'ordre de ne pas se conformer au siècle présent. Il faut comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Mais il faut être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Je vais vous en parler dans un instant, mais juste pour vous dire comment cette conformité est forte, essayez d'être dissident, voir, du message reçu. Vous allez être rapidement puis vigoureusement repris par le ridicule, par des étiquettes qui vont vous être données, par l'isolation, vous allez être mis de côté, ou même par des menaces, des amendes. Maintenant, on sait que la solution à la conformité du siècle présent, c'est la transformation de l'intelligence par l'Esprit de Dieu. OK? Mais comment? Comment on peut être transformé dans la situation actuelle? On fait une révolution? Non, Jésus n'a pas fait de révolution, puis c'est pas la méthode biblique. On se tait, puis on prie? On prie, oui, certainement, mais la vraie prière, et on va en parler plus tantôt, puis plus tard, pas l'apathie, pas juste dire des mots, la vraie prière, puis se taire, certainement non. OK, il y a une place pour dénoncer, mais surtout pour proclamer la délivrance qui est en Jésus-Christ, proclamer l'œuvre parfaite de Christ, parce qu'au bout du compte, comme j'ai dit, même si on perd toute notre démocratie, OK, c'est Jésus-Christ qui est l'espoir, c'est lui qui sauve, c'est lui qui délivre, c'est lui le seul espoir au bout du compte. Donc, il faut ouvrir notre bouche pour ça. Alors, faites-vous-en pas, je ne veux pas monter aux barricades, je veux monter au trône de la grâce. Par contre, je ne veux pas être silencieux par rapport à la vérité qui trébuche sur la place publique, pas plus qu'Ésaïe, pas plus que Jérémie, pas plus qu'Ézéchiel, les apôtres. On a un problème spirituel avec ça. Jésus a dit « La vérité vous affranchira, il est l'ultime vérité. » Et c'est ça qui a commencé à... Parce qu'on a rejeté Dieu, l'ultime vérité, toutes ces choses-là arrivent. Savez-vous que c'est facile? Ça ne demande pas de courage de laisser la vérité trébucher sur la... On n'a rien besoin de faire. Mais il faut vaincre l'esprit de peur qui est tellement dominant. C'est ça le problème, parce que... OK, la peur, c'est une émotion forte. La colère, c'est une émotion forte. Savez-vous comment qu'on voit qu'il y a un esprit de peur? On le voit par ses fruits. OK, les médias, tout le siècle présent fait appel beaucoup à la peur. Hitler faisait appel à la colère contre les Juifs, tout ça. On ne reconnaît pas un esprit, mais on en voit les fruits. Qu'est-ce qui est arrivé avec Hitler? Les fruits. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on voit avec les fruits? Tout le monde est paralysé. OK? Il y a une apathie spirituelle qui est... c'est ça notre problème. Comme je dis, la solution, c'est pas de monter aux barricades, c'est de montrer au trône de grâce, mais même ça, on le fait pas. Se réfugier dans le lieu sûr de la conformité, c'est pas se réfugier en Jésus, mes amis. Voyez-vous qu'il y a un piège? Là, on peut juste se réfugier, acheter le silence. Mais au bout du compte, on doit plus que jamais se réfugier en Jésus, notre Sauveur. Puis la preuve qu'on ne se réfugie pas en Jésus, est où la contrition, rechercher Dieu, le peuple de Dieu qui s'humilie, qui prie, qui cherche la face de Dieu d'une façon réelle et puissante? Moi, je vois plutôt de l'apathie même qui grandit. Ça m'inquiète énormément, mes amis. Regardez le monde chrétien, encore là. C'est pas nécessairement visible, on en voit les fruits. Et là, écoutez bien, là, ce qui me préoccupe le plus là-dedans, à toutes les fois qu'on cède de l'influence comme ça, par un esprit de peur ou un esprit de colère, qu'on cède de l'influence spirituelle à Satan, on y accorde du terrain. OK? Éphésiens, ça dit, ne vous mettez pas en colère, parce que sinon on donne accès au diable, on lui donne du terrain. Même chose avec la peur. Quand on cède à la peur, on donne du terrain, okay? Parce que la peur, c'est l'opposé de la foi. Donc, le plus grand problème, c'est que avec cet esprit de peur ou la colère, parce que ça peut venir entre nous, les frères et sœurs, on donne du terrain à Satan. On lui donne du pouvoir. On le laisse diriger. On donne à Satan le pouvoir de nous diviser. On donne à Satan le pouvoir de nous détruire. Puis de nous rendre esclaves. Mes amis, c'est vraiment... Il faut qu'on se réveille du sommeil dans lequel on est. Lorsqu'on cède à l'influence de Satan, on tombe dans le panneau. Et c'est quoi, soyons honnêtes. Et moi, le premier, je suis tombé dedans. Puis c'est pour ça que je dis ce matin, je veux virer de bord. Puis pas juste moi. Je veux que comme église, on se rend compte, wow, là. Qu'on comprenne ce qui est en train d'arriver. Satan est en train de prendre le dessus. On lui donne le terrain. Comment on voit ça? Qu'on est les serviteurs de Satan, qu'on lui a donné du pouvoir. Je voulais juste un verset. Comparaison. Galates 5, 15. Mais si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous soyez détruits les uns par les autres. Est-ce que c'est ça qui arrive, ou est-ce qu'on marche par l'esprit et on n'accomplit pas les désirs de la chair? Est-ce qu'on produit le fruit de l'esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi? Voyez-vous la situation spirituelle dans laquelle on est? C'est ça le problème. Et on a cédé par la peur puis la colère. Est-ce que vous voyez le piège? Voyez-vous la puissance spirituelle de la vérité qui trébuche sur la place publique? C'est une attaque à Jésus-Christ et à son corps, l'Église. C'est ça qu'on est en train de voir. Oui, il y a le monde, les ramifications, mais spirituellement, là, Satan, son ennemi numéro un, c'est Jésus-Christ. Puis nous sommes son corps. Fait que tout ce qu'on voit dans le monde, c'est des conséquences, c'est des effets secondaires de la guerre spirituelle qui est entre Satan et contre Jésus et son Église. Ça, c'est la perspective biblique de ce qui est en train de nous arriver en ce moment. C'est pas pour se faire le centre du monde. Jésus est le centre du monde, le centre de l'univers. Puis ce qui arrive, c'est d'abord et avant tout contre notre chef et notre maître. Et le premier pas, la solution, évidemment, si mon peuple sur lequel est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Et on va parler de ça plus tard. Mais j'aimerais vous amener vers le deuxième point ce matin. Tout se joue dans le leadership. Pour arriver, pour jouir de la promesse de 2 Chroniques 7-14. Donc, ça m'amène au deuxième parallèle. Non seulement la vérité trébuche sur la place publique, mais regardez au début du verset 16. « Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. » Le deuxième parallèle ici, il n'y a pas un homme. Pas un. Il s'est dit un homme. Les femmes, prenez pas ça personnel, ça ne dit pas une femme, et je vous explique pourquoi. On va dire, ah, peut-être c'est générique, puis certainement les femmes qui prient, ça fait toute une différence. Dieu ne fait pas la différence devant son trône qu'on soit un homme ou une femme. Mais voici, je pense qu'il y a une question de leadership d'impliquer ici. Parce que, ici, dans le contexte, comme dans Ézéchiel par rapport à un homme qui se tient à la brèche, ici, ça fait appel à ce qui est fondamental à un homme. Que ce soit comme Pierre et Jean dans le livre des Actes, dans Actes 4 et 5, Jean-Baptiste avec Hérode, ou Paul dans Actes 16 et ou Actes 25, ou lorsqu'il a repris Pierre lui-même dans Galates 2. C'était pas dans Galates 2, mais c'est rapporté dans Galates 2. Les hommes sont appelés à se tenir pour Dieu, pour la vérité. Défendre l'orphelin, c'est l'appel premier des hommes. C'est ça être un homme, c'est la protection. C'est ça ici qui dit « j'en trouve pas ». Qui intercède, c'est la protection spirituelle. Le problème en ce moment, c'est qu'il n'y a pas d'homme, de courage, de conviction pour se tenir contre cette peur paralysante, cette forteresse. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Mais j'aimerais vous dire, parce que ici, quand je dis se tenir, vous pensez à Éphésiens. On va voir ça dans le troisième point. Hein, se tenir, de se fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissance, afin qu'on puisse tenir dans le mauvais jour, se tenir dans la guerre spirituelle. Savez-vous qu'on ne peut pas se tenir si on ne fait pas tout ce qui va avant, parce que se tenir, là, c'est à la fin du livre d'Éphésiens. C'est quoi le secret pour se tenir? C'est lorsque on connaît Dieu puis le grand salut qu'on a à lui. Éphésiens 1 à 3. Puis ensuite, c'est de marcher de manière digne de ce grand appel. On a besoin d'hommes qui se rendent compte de tout ce qu'ils sont en Jésus-Christ, qu'on a infiniment tout en lui et qui marchent à la lumière de ça, qui répondent à ce si grand salut. Qui marche à la lumière de ce que Christ est, de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas d'hommes qui se tiennent plus que ça. C'est l'aboutissement ou le résultat d'avoir négligé toute, dans le fond, la majorité du livre d'Éphésiens. Il n'y a pas de recette miracle. Il faut marcher avec Dieu, en connaissant Dieu. Maintenant, je dois l'avouer, dans notre société, tout s'attaque à ce qui vient de Dieu, à ce que Dieu a créé. On vient de parler des hommes, la société s'attaque énormément à la masculinité et ce qui est un homme. C'est ridiculisé, c'est... Je veux dire, être un homme qui est un homme, c'est vu là comme... Vous n'êtes peut-être pas tous des hommes ici, ceux qui écoutez, mais les hommes qui écoutez, vous savez de quoi je parle. Ça, c'est la base de la famille. La société s'attaque beaucoup de la famille. L'Église, puis le gouvernement. Regardez en ce moment ces trois choses que Dieu a créées. Regardez dans le livre de Genèse. Trois institutions divines. La famille, l'Église, puis le gouvernement. Les trois sont attaqués en ce moment, sont infiltrés, corrompus au point que la nature, le rôle, l'efficacité, puis le but qu'ils ont de glorifier Dieu sont complètement compromis. Et savez-vous quoi? Le point majeur qu'Ésaïe amène dans le chapitre 59, c'est que c'est le péché le problème. C'est le péché qui met un frein. Et dans notre cas, c'est l'esprit de pensée. C'est ce que je veux dénoncer. Si on se rappelle de quelque chose que ce message dénonce, c'est l'esprit de peur. La victoire sur le monde, la victoire sur ce qu'on entend, c'est quoi? Notre foi. Il faut arrêter de céder à la peur. J'ai trop longtemps cédé à la peur, j'étais misérable, je devenais tout irrité, choqué. Je ne veux plus aller là. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'on regarde à Christ, puis qu'on se confie en lui, pas qu'on soit sujet à toute la peur qu'il peut y avoir. La peur engendre la colère engendre la division, la destruction. C'est ce qu'on voit partout. Les chrétiens, si on a un message d'espoir, si on peut, comme dans le livre des Actes, puis l'Église primitive, être au devant de la culture et non pas à la remorque de la culture, c'est en ayant comme ça confiance en Dieu, puis en vainquant cette peur. Savez-vous, c'est comme ça que le christianisme est né, c'est comme ça qu'il a laissé sa trace sur nos sociétés, puis qu'on est maintenant où est-ce qu'on est. Parce qu'ils ont vaincu la peur, puis ils ont vu Christ au-delà de tout ça. Ils ont déterminé c'est quoi la nouvelle norme culturelle. Ils étaient au devant de la culture et non pas à la remorque de la culture. Ils n'étaient pas conformes au siècle présent. Ils étaient tellement transformés par le renouvellement de l'intelligence qu'ils ont influencé toute la société. Puis c'était une poignée de personnes. Dieu est capable de faire des choses incroyables avec juste des gens qui font confiance, qui sont cédés à lui. Qui dénonce le péché de la peur paralysante et facilitante? Non seulement la peur est paralysante, mais c'est facilitant. Ça peut être une force facilitante pour laisser les choses aller, puis on ne dit rien, puis la vérité trébuche sur la place publique. Quel homme élève la voix, intercède pour ceux qui sont abusés, pour ceux qui sont corrompus? Qui se tient pour la religion pur et sans tâche devant Dieu et les hommes? La réalité, mes amis, comme du temps d'Ésaïe, comme du temps d'Ézéchiel, il n'y en a pas. Ah, mais savez-vous quoi? Comme du temps d'Ésaïe, puis comme du temps d'Ézéchiel, le seul espoir, c'est le bras de l'Éternel. Regardez, on a arrêté en plein milieu du verset 16 volontairement. Parce qu'après, ça dit « Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. » Quand vous voyez le bras de l'Éternel, c'est pas juste une figure pour parler que Dieu a un bras ou des yeux. Non, c'est un titre messianique. Ça parle de Jésus-Christ, le Messie, le Rédempteur. D'ailleurs, on le voit dans la suite, au verset 20, ça nous parle directement du Rédempteur. Dieu n'a pas changé de sujet, ça parle de la même personne. Et c'est lui maintenant qu'on va considérer avec le troisième parallèle est le plus important. La solution, la façon d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Et on a ça dans les versets 16 jusqu'à la fin. J'aimerais qu'on lise, on continue à partir du verset 17. Alors ici, le bras de l'Éternel, ça dit, « Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement. Il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, l'appareil à ses ennemis. Il rendra l'appareil aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. » Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi, mes paroles que j'ai mises dans ta bouche, ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Ça, c'est l'espoir messianique. Ça, c'est l'espoir qu'on a en Jésus-Christ, mes amis. Il restaure, il rachète. C'est lui qui fait la différence. Le bras de l'Éternel lui vient en aide. Mes amis, c'est ça notre espoir. C'est lui l'homme qui est l'ultime homme. L'homme qui se tient toujours sans jamais tomber, sur lequel on peut toujours s'appuyer. L'homme qui fait que nous, les hommes, on peut être un homme, que vous, les femmes, vous pouvez avoir cette sécurité qui est dans vos cœurs, puis que Dieu vous a créé comme ça. Tout est en Jésus-Christ, mes amis. Il est l'homme, voici l'homme, c'est lui le bras de l'Éternel qui peut vraiment tout changer la situation. Et donc, j'aimerais qu'on s'en aille dans Éphésiens chapitre 6, j'ai dit qu'on allait y revenir. Et c'est avec ça que j'amène mon troisième point qui conclut ce message. On fait plusieurs parallèles. On l'a fait avec le livre des Actes puis Ésaïe, puis maintenant on en fait un avec Éphésiens, la guerre spirituelle. On va regarder, on va pas lire tout de suite, là, juste vous dire ce qu'on va faire. On va regarder quatre accès que nous avons au Tout-Puissant. Parce que la foi, c'est pas une œuvre. La foi, c'est notre accès au Tout-Puissant. La foi en tant que telle, on ne se confie pas dans notre foi. Notre confiance est dans l'objet de notre foi. Notre foi, c'est ce qui nous rattache, c'est ce qui nous fait prendre toutes les promesses qui sont en Dieu, qui nous donne par Jésus-Christ. OK? Donc, quatre accès au Dieu Tout-Puissant qui nous permet de toujours, toujours être plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Puis, je suis content de finir sur cette note-là. OK, regardez avec moi le début du verset 10. OK, Éphésiens 6, tout le monde est là, début du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. J'arrête là, juste pour commencer. Éphésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Le premier accès qu'on a à la toute-puissance de Dieu, c'est notre union avec Jésus-Christ. Mes amis, que Dieu grave sur nos cœurs la grande vérité néo-testamentaire de notre union avec Jésus-Christ. Ce qu'il est, nous sommes en lui, nous sommes dans le bien-aimé. Pourquoi qu'on est plus que vainqueur? Parce que c'est par celui qui nous a aimés, parce qu'on est en lui. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Quand on voit dans la Bible, spécialement dans Éphésiens, en Christ ou dans le Seigneur, ça nous parle de notre union avec Jésus-Christ. C'est-à-dire que toute notre force, notre assurance repose sur le fait que nous sommes en lui. En lui. C'est notre lien inséparable avec Jésus-Christ dans sa mort, sa résurrection, puis n'oublions pas son ascension. Christ est élevé à la droite de Dieu dans les lieux célestes, et son autorité, et nous avons cette autorité sur tous les domaines des ténèbres. Ça veut dire quand on prie au nom de Jésus-Christ, on prie dans son autorité. Jésus, quand il a dit, on va voir ça ce soir, mais quand que, on est d'un accord pour prier en son nom, qu'on peut lier puis délier, ça, c'est pas parce que nous, on est bon puis on est donc extraordinaire, c'est parce qu'on a l'autorité de Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on a par notre union avec Jésus-Christ, sa vie, mort au péché, vivant pour lui, puis maintenant, en lui, on peut exercer son autorité. Parce qu'il nous l'a confié, c'est une autorité déléguée. On peut se présenter devant le Père dans le nom du Fils pour exercer son autorité dans les lieux célestes et ici-bas sur terre. C'est la clé de la victoire. C'est la grande vérité du Nouveau Testament. Tout ce qu'il est, nous y avons accès. Sa toute-puissance, sa sagesse, son amour, sa justice, nous avons tout pleinement en lui. Et donc, on a la vraie liberté vers la victoire. Autrement dit, je suis libre d'être faible parce que lui est ma force. Je suis libre d'être peureux parce que c'est lui l'objet de ma foi. Ah, j'ai peur, mais Jésus ne change jamais. Je suis même libre d'avoir des doutes parce que lui est toujours vrai. Il ne ment jamais. Il est la vérité. Ça mène au deuxième point, deuxième accès, non seulement notre union avec Jésus-Christ, mais regardez la deuxième partie du verset 10. OK, donc on va le relire au complet. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Oh, voici notre mot, sa force toute puissante. Le Saint-Esprit est la personne de la Trinité qui nous donne accès à la toute-puissance de Dieu. Notre relation avec le Saint-Esprit, avec sa parole, avec sa voix, c'est la deuxième clé vers la victoire. Parce que c'est par cette relation-là avec le Saint-Esprit qu'on a accès au Tout-Puissant. Pour qu'on puisse marcher par l'Esprit, pour qu'on puisse porter le fruit de l'Esprit. Tout ça, ce qui arrive lorsque quelqu'un est en relation avec le Saint-Esprit. Et j'aimerais vous dire, mes amis, c'est pas pour rien qu'on voit cette apathie et tout ça. Le Saint-Esprit, c'est la personne la plus négligée de la Trinité dans nos églises. C'est le grand inconnu, le grand négligé. Et c'est pour ça qu'on est dans la situation dans laquelle on est. Parce qu'on n'a pas une relation avec le Saint-Esprit. Ça amène au verset 11, le quatrième accès à la toute-puissance de Dieu. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Puis ensuite, on sait que les armes de Dieu, on en a un détail là, dans les versets 14 à 17. « Mais revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Ça, c'est la provision de notre Père Céleste. Les armes de Dieu, notre Père Céleste, nous donne toutes ces armes-là en Jésus-Christ. OK? Savez-vous, c'est une image? T'sais, Dieu, c'est le Dieu qui pourvoit. Comme dans Genèse 22, hein? Dieu pourvoira, Jéhovah Jireh. Dieu nous a pourvus de toute son armure. Puis on peut s'en revêtir. Maintenant, quand on parle de revêtir les armes de Dieu, savez-vous, c'est comme c'est revêtir Jésus-Christ. C'est revêtir Jésus-Christ. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? On ne va pas rentrer tout dans les détails là-dedans. On a déjà parlé à d'autres reprises. Vous êtes peut-être déjà familier avec ça. Mais tu sais, l'idée de se dépouiller puis revêtir, OK? Ça en parle dans Éphésiens 4, 21-25, puis dans Colossiens 3, 10. L'idée ici, là, puis si vous avez des questions, vous pourrez m'en venir là-dessus pour plus de détails. Mais l'idée, c'est de vivre à la lumière ou dans la foi de la réalité de notre union avec Jésus. Je vis comme si étant un fait. Regardez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu. C'est ça, se revêtir. C'est pas que j'essaye moi-même, puis ok, vite, faut que je mette ma cuirasse, faut que je mette mon casque. Non, j'ai ça en Jésus-Christ. Je vis dans cette conscience de ça et je vis comme étant que c'est un fait. J'ai ces choses-là en Jésus-Christ. C'est ça que ça veut dire, se revêtir. Parce qu'on l'a déjà. Mais c'est de vivre selon ça. Comme l'idée de regardez-vous comme, OK, on pourrait dire, regardez-vous comme complètement armé par Dieu le Père en Jésus-Christ au moyen du Saint-Esprit. C'est ça l'idée ici, OK? C'est notre troisième accès à la toute-puissance de Dieu, son armure invincible. Et en passant, ça va tout ensemble. Son armure, je l'ai lorsque je vis à la lumière de l'union avec Jésus-Christ, on vient d'expliquer, puis avec ma relation avec le Saint-Esprit. Ça va tout ensemble, cette affaire-là. OK? Donc, comme un bon soldat de Jésus-Christ, je t'ai appelé à souffrir. 2 Timothée 2:3. Mais sans m'embarrasser des affaires de la vie. Il y a des distractions, il y a des mauvaises priorités. Non, je recherche à plaire à celui qui m'a enrôlé. C'est ça l'idée ici en arrière de toute l'armure de Dieu, un soldat de Jésus-Christ. Finalement, verset 18. Regardez avec moi le verset 18. Quatrième accès à la toute-puissance de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit. Oh, passons pas trop vite au-dessus de ça. Ça dit pas juste prier. Non, faites en tout temps par l'Esprit. Toutes sortes de prières et de supplications. Veillez cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La toute-puissance par laquelle on a accès à la prière. Vous savez que le Dieu trinitaire est accessible. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Puis en passant à ce qu'on a vu, hein, notre union avec Christ, ça nous pointe à Christ. Notre relation avec le Saint-Esprit, évidemment, c'est le Saint-Esprit. Puis l'armure de Dieu que notre Dieu a pourvue. Et tout ça, on y a accès par la prière. C'est le moyen désigné par Dieu pour avoir accès aux trois premières clés ou secrets d'une vie chrétienne victorieuse. Il n'y a rien qui remplace la prière. Rien. Surtout quand c'est le temps de se tenir. De se tenir dans la victoire de notre union avec Jésus-Christ. La prière, c'est le souffle de notre relation avec le Saint-Esprit. Puis c'est ce qui détermine l'efficacité de comment je me sers de l'armure de Dieu. Tout ça, c'est dans ma vie de prière. C'est l'accès englobant à la personne, à la grâce du Dieu Tout-Puissant. C'est intéressant de noter que, on va pas retourner là parce que j'ai pratiquement terminé, mais dans les deux textes principaux qu'on a considérés, dans Actes chapitre 4 et dans Ésaïe 59, les deux finissent avec ce dont on a parlé dans le message, l'unité spirituelle. Et les deux étaient dans un contexte de péché, de corruption, de menace, puis de persécution. OK? Mais quand Dieu s'en mêle, ça finit de façon spirituelle. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on baisse les bras, puis qu'on se contente, puis qu'on excuse ou qu'on justifie de se mordre puis de se diviser les uns les autres. Jamais on doit laisser aller ça dans l'Église du Dieu vivant, parce que ça ne vient pas de Dieu. Il ne faut pas qu'on se laisse vaincre par ça. Puis je voulais partager dans le verset, dans le dernier message que j'ai envoyé. Mon pied a presque glissé. Mais quand je suis rentré dans la présence de Dieu, puis j'ai considéré la fin, mes amis, ça a tout fait virer de bord. Quand on va dans la présence de Dieu, là, toutes nos orgueils, nos pensées, nos irritations, ça fond comme neige au soleil, mes amis. C'est là qu'on doit aller. Dans la présence de Dieu et la prière. La marque distinctive de l'œuvre de Dieu, c'est l'unité spirituelle. Et de la même manière, la marque distinctive, lorsque Satan s'en mêle, c'est la division, la discorde, la destruction. On a le choix ce matin. C'est vital non seulement pour notre Église, nos familles, mais même entre les Églises. Mes amis, on vit dans des temps qu'on n'a jamais connus avant. Pour ça, il faut se laisser un peu de temps pour apprendre, puis il faut user de grâce les uns envers les autres. Puis je suis content parce que je pense que par la grâce de Dieu, c'est ce qu'on apprend à faire les uns avec les autres. Mais Dieu, il démontre sa toute-puissance. Il démontre qu'il est incomparable. Lorsque dans des situations de même, que ce soit dans Ésaïe, dans Ézéchiel, dans le livre des Actes, dans des temps historiques comme avec Mao, Hitler, ou lorsque Dieu manifeste sa toute-puissance parce que juste lui est capable de faire. C'est le trouble, le chaos partout, puis on arrive dans une église, il y a la paix de Dieu qui surpasse toutes les intelligences, puis on dit « Wow, Dieu est dans cette place ». Mes amis, c'est ça qu'on a besoin. La connaissance entre, puis on peut avoir bien raison sur bien des affaires, mais au bout du compte, l'amour édifie. Et vraiment, la solution, l'accès universel au Tout-Puissant, c'est la prière. Alors, c'est là-dessus que je veux terminer, puis je veux pas trop donner de détails pour ce soir. Je veux, pas juste pour garder le suspense, mais je veux pas que vous ayez des attentes, puis que dans vos raisonnements, vous disiez, je veux que vous attendiez à Dieu. Parlez juste à Dieu. Je suis vraiment sérieux quand je dis ça, là. Mon désir, c'est que ceux qui viennent asseoir, ils ont entendu la voix de Dieu dire « OK, viens ». Puis je veux pas être rude en disant ça, mais si vous l'entendez pas, ben peut-être parce que vous êtes pas habitué, vous avez perdu l'habitude d'entendre la voix du Seigneur. Ça veut pas dire que le Seigneur veut que vous veniez, c'est peut-être juste parce que vous l'entendez pas. Prenez un temps. On dit mon âme en silence, faire le silence. Je pense qu'on est honnête, je pense que Dieu voudrait tous qu'on soit là ce soir. Mais l'idée, c'est qu'on réponde à Dieu. C'est ça l'idée de ce que je veux amener. Tout le monde est bienvenu, évidemment. Je ne veux pas être à la porte. Dieu t'a-tu invité? Non, c'est pas ça l'idée. C'est est-ce qu'on est dirigé par le Saint-Esprit? Est-ce qu'on entend la voix du Seigneur? Est-ce qu'on prie par le Saint-Esprit? Est-ce qu'on prie, verset 18, en tout temps, par l'Esprit, par des prières et des supplications? Mes amis, on est dans une guerre spirituelle sans précédent dans nos vies. Ah, il y en a eu d'autres, puis. Mais je pense qu'on peut tous s'entendre, on n'a jamais vu ça avant. Et c'est le temps, plus que jamais, de se tenir, de se fortifier dans le Seigneur par sa force toute puissante, afin qu'on puisse tenir ferme contre les ruses du diable. Seigneur, on te remercie ce matin. Que dans ta grâce, tu nous rends compte. Seigneur, tu es dans cette place. Les cœurs sont réceptifs. Je sais, Seigneur, que ton esprit, tu es Dieu le Saint-Esprit, tu es à l'œuvre. Et Seigneur, tu vois notre détresse, tu vois notre peur. Tu vois notre irritation, notre nature pécheresse qui a certaines tendances d'un côté puis une autre, puis toi, Esprit du Dieu vivant, puisses-tu vaincre totalement toutes ces choses et que oui, tu exaltes ta grande délivrance, ton grand nom au milieu de nous. Seigneur, on te remercie que on a accès à toi, le Dieu Tout-Puissant. Et Seigneur, que ces paroles qu'on a entendues de ta part ce matin, ce qui vient de ta parole, où est-ce que tu as adressé des choses à chacun de nos cœurs, que ça suscite dans chacun de nos cœurs la réponse de la foi, de la confiance. Tu nous interpelles, Seigneur, tu nous appelles à toi. Tu es bon, Seigneur, tu uses de patience. On te prie que tu puisses diriger, Seigneur, ce temps de prière, cette réponse maintenant à ta parole. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen.